Anne-Françoise Martin, bonjour.
Bonjour.
Et on est en compagnie de Serge Lemaître, bonjour, conservateur pour les terres d'Amérique au musée d'art et d'histoire.
Voilà, bonjour.
Vous allez nous présenter évidemment votre collection Terres d'Amérique, et puis on parlera aussi de la collection Inuit, en tout cas l'exposition qui est encore en cours jusque fin mai. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les Terres d'Amérique ?
Alors c'est une des plus grosses installations en somme d'exposition permanente. Il y a à peu près 1200 m² qui nous permettent d'exposer l'entièreté des collections Amérique depuis l'extrême nord, l'Arctique, jusqu'à la Terre de Feu. Et donc c'est un voyage qu'on propose à travers toutes les civilisations et à travers le temps aussi.
Alors c'est immense évidemment, donc on a ici, on est dans l'entrée, les musées, le musée cinquantenaire, on ne peut pas louper, hein.
Voilà, parc du cinquantenaire.
Voilà, parc du cinquantenaire, beaucoup de Bruxellois ne sont pas toujours au courant qu'il y a un musée exceptionnel. Depuis combien de temps ce musée existe au niveau des collections permanentes ?
Alors les collections ici dans le musée du cinquantenaire, enfin, le musée d'art et d'histoire, ça fait plus d'une centaine d'années que nous sommes ici. Ce musée n'était pas prévu pour être un musée, c'était l'ancien Ezel en somme, palais des expositions, art et industrie. Puis ça s'est transformé en musée, donc ça fait plus d'un siècle qu'on est ici et qu'on présente des collections diverses et variées de toute notre histoire, depuis la préhistoire la plus ancienne jusqu'à découvrir les cultures d'Asie. Et donc on est effectivement dans le parc du cinquantenaire où les gens connaissent peut-être aussi Outer World et le musée de l'armée. Donc c'est un bel ensemble de musées dans un parc bruxellois.
Alors pourquoi faut-il venir voir vos collections ? Parce qu'on a tendance à aller évidemment dans d'autres musées. Pourquoi ici précisément ?
Alors pour les collections Amérique en tout cas, celles que je connais le mieux, on est considéré de l'avis de beaucoup de gens et de spécialistes comme un des trois plus beau musée pour l'art américain en Europe. Alors, on a une diversité de collections, on a des pièces vraiment exceptionnelles, et puis surtout, on offre un panorama le plus complet. Donc, vous pouvez aller au musée du Quai Branly, par exemple, ils ont des très belles pièces aussi, mais ils n'ont pas le panorama aussi complet qu'on l'a, puisque, comme je vous le disais, on voit depuis les Inuits de l'Arctique jusqu'aux plus petites populations que l'on connaît moins, du sud du Chili ou d'Argentine, par exemple.
Alors, quand le visiteur vient, on ne peut pas louper, il y a un grand totem, évidemment, en plein milieu du bâtiment. Comment on visite quand on vient voir les Terres d'Amérique ?
Alors, justement, ce qui est intéressant dans notre salle, qui font, comme je disais, un peu plus de 1000 m², c'est qu'elles sont disposées, si on veut, un peu comme la carte de l'Amérique. Donc, on commence effectivement par deux salles consacrées à l'Amérique du Nord, et puis on progresse logiquement et géographiquement vers le Mexique, vers le Yucatan pour voir les Mayas, et puis on continue, on poursuit notre trajet vers le sud en découvrant une très belle salle sur le Pérou, et puis aussi bien l'Amérique centrale que l'Amérique du Sud, et on termine effectivement par le Chili, l'extrême sud du Chili.
Alors il paraît, on m'a dit, je pense que c'est Anne Goffard qui m'a expliqué, que Hergé s'était inspiré de quelques objets dans la collection permanente.
Oui, alors Hergé habitait pas très loin d'ici, en fait il habitait à Etterbeek, donc il était régulièrement dans notre musée, on a des photos de lui notamment avec son ami Chang qui visite le cinquantenaire, et il s'est inspiré particulièrement d'objets de la collection Amérique. Alors il a pioché un petit peu partout dans le musée, mais spécifiquement dans la collection Amérique, il y a 7 objets que l'on retrouve dans cette bande dessinée, dont les deux plus fameux, qui sont la momie de Raskar Kapak et la statuette de l'oreille cassée.
Alors, tout d'abord, on va peut-être aller... Guidez-moi, hein, je suis...
on peut commencer par le...
Voilà, on va commencer par la première partie, on va dire. Alors, ici, c'est beaucoup tout ce qui est...
Donc ici, c'est l'Amérique du Nord. Alors, on y voit les Inuits, l'Antarctique, l'Arctique, pardon, excusez-moi, les Iroquois, et puis alors les Indiens des Plaines, qui sont très importants. Et majestueusement, en plein milieu de la salle, un kayak qui est le plus ancien kayak connu au monde, voilà, qui date de la fin du XVIIe siècle.
Les objets les plus précieux, vous avez quand même des objets qui sont inestimables, on va dire.
Oui, mais je pense qu'Anne-Françoise peut en parler, notamment de ce manteau en plume de cormoran.
Alors, Anne-Françoise Martin.
C'est un superbe manteau en plume de cormoran, mais donc ce n'est pas seulement les plumes, ce sont aussi les peaux du cormoran, donc... C'est les femmes, en fait, qui faisaient ce travail incroyable de patience. Environ une cinquantaine d'oiseaux dont on a récupéré les peaux et les plumes pour faire une énorme parka. Donc, je vais la décrire pour qu'on puisse se l'imaginer. Donc, un large et long manteau qui s'arrête à peu près à la mi-cheville et qui a un petit col en fourrure blanc. Et qui était utilisé lors de festivals, plutôt cérémonies rituelles où hommes et femmes dansaient. C'est une pièce exceptionnelle.
Alors c'est au fur et à mesure, les collections, elles ont commencé à devenir de plus en plus importantes. Il a fallu évidemment énormément de temps pour accomplir...
Pour la collection en elle-même, vous voulez dire? Oui, en fait, dès que la Belgique est créée, donc en 1830, il y a un nationalisme en quelque sorte qui veut que les gens vont donner beaucoup d'objets pour constituer nos collections. Et déjà, à la Porte de Halle, qui était l'ancienne installation, c'est déjà des objets qui ont été constitués, qui sont les trésors impériaux. Donc Charles Quint recevait des cadeaux. Bien, une partie s'est retrouvée dans nos musées. Donc c'est une collection sur plusieurs centaines d'années. Et parmi les plus anciens objets, c'est 1830. Dès vraiment la création en Belgique, ça rentre dans nos musées et ça vient enrichir nos collections avec justement cette ouverture aussi vers le monde. Et donc un enrichissement de toutes les cultures à travers le monde.
Alors, on va un petit peu parler aussi de la collection Inuit. Ça, c'est l'exposition qui est encore en cours pour le moment jusque fin mai. Alors, tout d'abord, cette exposition, en quoi consiste-t-elle ?
Donc, l'exposition sur les estampes Inuit se tient jusqu'au 22 mai. Il reste 3 semaines pour la visiter. On a rencontré le poète belge, Karl Norak, donc le fils de Pierre Coran, qui est un des... tout grand auteur pour la jeunesse de Belgique et qui collectionne les sculptures et les estampes inuites depuis les années 60. Donc il est véritablement tombé en amour, comme on dit au Québec, avec l'art inuit lors dans ses jours au Québec et à Montréal. Et donc il collectionne ces sculptures et ces estampes depuis cette époque. Et dans le cadre du Picture Festival, qui avait lieu donc une semaine en mars, au moment du congé de carnaval, on a participé, donc le musée, donc l'organisatrice du festival, Carole Saturno, avait envie que le musée du cinquantenaire soit intégré dans le parcours. Et donc on a eu l'idée en fait, de faire cette collaboration avec Karl Norak, qui a prêté 25 estampes, vraiment superbes. Et on a créé une petite exposition en regard croisé avec nos œuvres d'art inuit, nos œuvres d'art archéologique et ethnographique.
Alors, on va continuer notre petite visite, monsieur le maître. On va aller dans la deuxième partie. Alors, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant et d'inédit ?
Alors ici, dans cette partie-ci, on est pour la poursuite de l'Amérique du Nord. Et donc, effectivement, il y a ce grand mâteau thémique en plein milieu qui a été sculpté par les artistes Kwakiutl, qui sont donc de la Colombie-Britannique et qui ont sculpté ce mât lorsqu'ils sont venus lors d'une grosse exposition qu'on avait faite en 99. Et puis, on présente évidemment toutes les cultures, aussi bien archéologiques qu'ethnographiques. Donc, c'est une vraie découverte de toutes ces populations amérindiennes. Donc, on ne présente pas juste l'Indien emplumé sur son cheval, mais aussi toute la diversité que sont les Indiens d'Amérique.
En tant que conservateur, vous savez plus ou moins combien d'objets vous avez dans ces espaces Terre d'Amérique ?
Alors, en fait, on conserve à peu près 24 000 objets.
Wow.
Et sont présentés dans la collection un peu plus de 1 000.
Alors, on va aller en direction, pour les amoureux de Tintin, d'Hergé, on va aller dans la troisième partie, on peut appeler ça une troisième partie. Alors, il me semble que ceci, alors on ne le voit pas évidemment à la radio, mais vous allez nous expliquer cette tête qui a inspiré Hergé.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un vase portrait, il est de la culture Mochica, donc c'est une culture du nord du Pérou, entre 300 et 600 de notre ère à peu près, et donc c'est un portrait d'un personnage qui est ici transformé en vase, et effectivement lorsqu'on relie Tintin et le Temple du Soleil, à un moment il se trouve derrière la cascade, dans la grotte, il est effrayé par un regard d'un personnage, et en fait c'est ce vase portrait qui sont vraiment très très bien réalisés, on a vraiment l'impression de se retrouver face à quelqu'un.
Et alors aussi, un autre personnage qu'on peut retrouver dans cette salle, elles portent des noms, les salles, ou pas ?
Oui, elles portent des noms, c'est-à-dire mais par leur culture, elles sont Mexique, Amérique centrale, ceci. Donc ici, on est dans la salle Pérou, on a énormément d'objets du Pérou, et puis ces cultures des Andes se sont vraiment très fort développées, avec une multitude, une vraie mosaïque de cultures, et donc on a voulu montrer aussi la diversité de ces cultures à travers le temps et à travers les régions. Donc ici, on est effectivement avec cette sculpture que tout le monde va reconnaître comme étant l'oreille cassée, mais qui n'a pas l'oreille cassée.
Effectivement, on voit qu'il a bien ses deux oreilles.
Voilà, donc c'est une statuette, bon pour nous c'est une statuette Chimú, donc c'est une culture qui va succéder aux Mochica dont on vient de parler, donc qui vont connaître les Incas, donc on est vers le 12e, 15e siècle de notre ère, dans le nord du Pérou, et donc ce sont des petites figurines en bois qui étaient sculptées pour soit décorer Chan Chan, qui était leur grande cité, mais qu'on va retrouver aussi en plus petite taille, comme celui-ci, dans les tombes. Et ils sont soit un petit bol, donc ils portent une offrande, soit ici, ils devaient probablement porter ce qu'on appelle une litière. Donc ils étaient probablement quatre personnages qui portaient des offrandes aux morts, puisqu'il y avait une croyance dans une vie après la mort, et donc ils devaient être nourris, effectivement.
Alors on va aller voir maintenant la pièce maîtresse, il faut absolument venir la voir parce qu'elle est quand même assez extraordinaire. Elle ne fait pas peur, je précise tout de suite, c'est cette momie qui a aussi inspiré Hergé.
Oui, donc on est avec la momie qui a inspiré Hergé, effectivement pour la création de Raskar Kapak. Donc c'est une momie, alors on a fait justement des recherches récemment pour savoir qui elle était, parce qu'on la connaissait, alors elle est entrée dans nos collections en 1841, donc il y a très très longtemps, et puis on la connaissait comme inspiration d'Hergé, mais par contre on ne savait pas qui c'était. Donc on a fait des analyses, on a fait un scanner, et donc on peut vous dire que c'est un homme d'environ 1m54 qui est mort.
Il était petit.
C'est la taille normale pour les indigènes, je veux dire des Andes, voilà. Et il est mort vers 35 ans, et sa particularité, c'est qu'il avait une vertèbre lombaire supplémentaire, qui lui a causé d'ailleurs des petits désagréments, dont une certaine claudication à la fin de sa vie. Et ce qui est plus amusant, c'est qu'on sait qu'il était en partie agriculteur, mais aussi chasseur d'otaries dans cette région. C'était une manière d'avoir un apport carné important dans cette région. Donc on a voulu aussi savoir qui il était de son vivant, si je puis dire. Alors ce que vous remarquez, c'est qu'il n'a pas de cheveux sur la tête.
Et surtout qu'il est la position...
C'est une position fœtale. Donc c'est ce qu'on appelle une position fœtale. Donc il est resserré, avec les bras sur les épaules et les genoux très fort ramenés sur le corps. Il faut savoir que, comme il est là, il est dénudé, dans le sens où normalement... au Pérou et au Chili, mais on enterrait les morts, mais en position fœtale, emballés dans des couches de textile. Alors, à certaines cultures, il y a jusqu'à 16 couches de textile. Ici, il y en avait probablement deux, ce qui est le plus fréquent, et ce qui lui permettait de le ligoter. Il avait normalement des liens qui le maintenaient dans cette position. Le but est de lui faire retrouver la position originelle, une position aussi... si je puis dire, de fèves, d'haricots, en somme, qui va regermer. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ces cultures-là, la mort n'est pas une fin en soi. Mais un début, on continue à leur parler aussi. Et donc, c'est une manière de dire que même mort, mais il va renaître, il va revivre.
Quand on prend son billet pour le musée, pour les collections Terre d'Amérique, on a bien sûr accès à l'exposition Inuit.
Vous avez accès à l'entièreté du musée, de toutes les expositions permanentes. Il y a juste un petit surplus si vous voulez voir l'exposition sur l'art aborigène actuellement.
Vous faites combien d'expositions temporaires par année, plus ou moins?
On en fait généralement deux. Alors généralement une grande internationale avec beaucoup de prêts, et puis alors une plus petite. Et puis alors ce qu'on a aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on nous appelle normalement les musées royaux d'art d'histoire, parce qu'on est pluriel, puisqu'en réalité la Porte de Halle et le musée des instruments de musique appartiennent au même ensemble, et donc on fait généralement aussi une exposition soit à la Porte de Halle, soit au musée des instruments de musique. Donc on a une programmation assez large pour ces musées.
Et puis il y aura, mais ça on en parlera à ce moment-là, une grande exposition également au mois d'octobre.
Sur les estampes japonaises, qui s'appelle Shinanga. Donc on a présenté déjà une exposition qui s'appelait Ukiyo-e sur les estampes des plus connues, Hiroshige Utamaro. Mais non, ici c'est la découverte des estampes modernes, puisque l'estampe continue à être réalisée encore de nos jours.
Alors pour terminer, j'ai envie de vous demander à tous les deux, les personnes qui ne sont jamais venues ici, quand on vient une première fois, comment on doit faire, parce qu'il y a énormément de choses à voir, qu'est-ce que vous préconisez, enfin qu'est-ce que vous leur conseillez pour ne pas qu'ils soient un peu perdus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de salles?
Alors je pense qu'il faut déjà choisir un secteur. Quand je parle de l'ensemble du musée, on est vraiment divisé en trois secteurs, hein. Il y a un secteur qu'on va appeler la Belgique, hein, depuis la plus haute préhistoire jusqu'au XXe siècle. C'est un choix. Soit il y a l'aile qu'on appelle Antiquité, où là vous avez la découverte Grèce, Rome, Égypte. Et puis alors il y a ce qu'on appelle vos terres d'Amérique et le contexte extra-européen, puisque au-dessus de nos salles, il y a tout ce qui est Asie, donc Inde, Japon et Chine, qui est aussi une découverte, mais alors des mondes qui nous sont peut-être moins connus.
Et moi, je dirais rentrer dans le musée et simplement se laisser guider par ses émotions, donc comme une balade poétique. Et si on n'a pas envie de choisir, on avance tranquillement et on se laisse attirer par l'un ou l'autre objet.
Merci à tous les deux, merci Serge Lemaire, merci à vous chère madame. Et puis de toute façon, on continue notre visite, nous, puisque nous y sommes, on en profite. Merci à vous.